Si vous deviez décrire un Français à un habitant d'un autre pays ou de notre culture, si vous deviez décrire un Français, qu'est-ce que vous diriez? Alors, je pense personnellement qu'une chose qui ferait peut-être l'unanimité, même en France, c'est risqué de dire ça, c'est que en France, on aime avoir toujours raison. Non? On aime avoir toujours raison. Peu importe le sujet, on a toujours raison et on aime cela. Alors ça peut avoir des côtés positifs, vous savez, d'être confiant en soi. C'est positif aussi, important d'avoir des convictions sur certains sujets, de pouvoir combattre pour des causes justes, défendre le droit. Je pense que je... Ça peut être important, bien sûr, d'avoir des convictions sur certains sujets. Mais le problème d'aimer avoir raison sur tous les sujets et tout le temps, c'est qu'au bout du compte, ça montre que l'on n'aime pas se remettre en question. Pire, quand cela devient une attitude ancrée en nous, vous savez comment est-ce qu'on appelle cela? De l'arrogance. Alors d'ailleurs, dans une étude menée par le Pew Research Center, les Français sont considérés comme les habitants les plus arrogants d'Europe. Alors, je ne sais pas si vous saviez, on est champion du monde de football. On est aussi champion du monde de l'arrogance. Ça peut vous sembler fort comme mot, mais en fait, ce qui est presque drôle et ironique, c'est que dans cette même étude, lorsqu'on demande aux Français qui sont les habitants les plus arrogants d'Europe, ils répondent « Nous, on est les plus arrogants !» Avoir raison sur tout, finalement, c'est se croire être les plus intelligents, les plus cultivés, les plus brillants. C'est être persuadé, en toute humilité bien sûr, de notre supériorité. Bon, finalement, entre nous, un Français, ça ressemble pas mal à un Corinthien. Si vous nous visitez ce matin et que c'est la première fois que vous êtes avec nous, on a l'habitude de lire tous les dimanches un texte de la Bible et d'essayer de voir dans ce texte ce qu'il voulait dire pour les personnes qui l'ont lu à l'époque, donc il y a 2000 ans quasiment. Et ensuite, d'en tirer des applications pour nos vies aujourd'hui. Alors, ce livre 1 Corinthiens, c'est tout simplement l'apôtre Paul qui s'adresse aux habitants de la ville de Corinthe. C'est sa première lettre qu'il leur envoie, d'où le nom 1 Corinthiens. Les Corinthiens, à qui s'adresse Paul ici, ils aiment avoir raison sur tout, et en particulier en ce qui concerne les apôtres et la vie de l'Église. Leur discours, par contre, il est vraiment, vraiment loin d'être constructif. C'est l'inverse même, car c'est l'unité de l'Église qui est en danger à cause de leur attitude. Moi, je suis de Paul, disent les uns. Moi, je suis d'Apollos, l'autre pasteur, disent les autres. En fait, ils prennent quelque part en otage les leaders de l'Église, et sans leur accord d'ailleurs, pour créer des clans dans l'Église et se disputer sur qui a raison, qui est le meilleur. La situation est tendue et pourtant l'apôtre Paul ne lâche pas l'affaire. Il leur envoie une lettre, qu'on a commencé à lire tout à l'heure. Il leur envoie aussi un collaborateur pour aller leur rendre visite et les enseigner, qui s'appelle Timothée. Et il prévoit même de se déplacer jusqu'à Corinthe en personne. Pourquoi? Parce que Paul sait qu'au-delà des disputes et des conflits qui sont puérils quelque part, il sait qu'il y a un enjeu qui est bien plus grand, un enjeu qui touche à la foi de tous ces chrétiens, un enjeu qui touche à la vie de leur communauté. Paul ne lâche pas l'affaire parce qu'il sait que les Corinthiens ont un problème simple. Ils ont un problème de perspective. Les Corinthiens ne voient pas les choses comme elles le sont vraiment. Mais la bonne nouvelle que Jésus annonce, c'est qu'il peut transformer nos vies en changeant notre perspective sur lui, sur son retour. Et on va voir ça ensemble ce matin. Alors, on a des petits problèmes de PowerPoint, mais on va réussir à faire fonctionner, d'accord? On est en famille. Prêt à changer de perspective? Tout d'abord, le vrai jury, ce n'est pas nous. On va lire ensemble les versets 1 à 5. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Le conflit dans l'église de Corinthe trouve sa source dans une mauvaise perspective, une mauvaise manière de voir les choses, une mauvaise manière de considérer et de voir les apôtres et les serviteurs de Dieu, et aussi une mauvaise manière de se voir soi-même. Il se divise autour de Paul, Apollos et Pierre. Mais en fin de compte, qui sont vraiment Paul, Apollos et Pierre? Au verset 1, Paul rappelle ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. En fait, Paul, Apollos et Pierre, pour lesquels ils se disputent, sont simplement des serviteurs de Christ. Des dispensateurs, nous dit le texte, ça veut dire des intendants. Un peu comme un gestionnaire. Paul a utilisé au chapitre précédent plusieurs images pour parler des serviteurs déjà. Il a dit que les serviteurs étaient un peu comme des agriculteurs, si on veut. Paul a planté, Apollos a arrosé, Dieu a fait croître. Ils étaient aussi des ouvriers avec Dieu pour construire l'édifice qu'est l'Église. Et maintenant, Paul change d'image pour nous parler de l'image de la maison. Ici, le serviteur est un intendant, un gestionnaire des choses de Dieu. À l'époque, c'était un esclave qui faisait ces choses-là dans une maison, mais avec un certain rang. Et les apôtres, donc, nous dit Paul ici, ont une position humble, car c'est Dieu qui est vraiment en charge, c'est lui le maître, mais ils ont aussi une délégation particulière d'autorité de la part de Dieu. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, on peut peut-être revenir juste de la diapo d'après, ou après même, tu peux continuer dans l'autre sens. Voilà, la prochaine. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Alors, qui sont Paul, Apollos et Pierre? Des serviteurs, ok? Qu'est-ce qu'on demande, du coup, des serviteurs? C'est qu'ils soient trouvés fidèles. Et ultimement, c'est à leur maître qu'ils vont devoir rendre compte. Le discours de Paul est assez clair ici. Il continue alors. Si Paul et Apollos sont des serviteurs, si leur travail, c'est d'être trouvés fidèles devant Dieu pour annoncer l'évangile qui est ce mystère de Dieu, quelle devrait être l'attitude des Corinthiens par rapport à ces serviteurs? Et bien, la suite du texte nous le dit. Tout simplement, ils ne devraient pas juger les serviteurs. Paul dit « Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Ne jugez pas avant le temps, littéralement, ne jugez pas avant le jour du retour de Jésus. » Alors, il faut peut-être préciser ici que Paul ne dit pas que un pasteur qui se comporterait mal, on pourrait absolument rien lui dire, pas du tout. Dans d'autres textes, Paul est clair et les responsables d'église doivent être un modèle pour la communauté et l'église ainsi que le conseil sont là pour veiller pour cela. Paul ne dit pas non plus qu'on peut pas avoir un avis sur un comportement blessant ou un mauvais comportement d'un frère ou d'une sœur dans la foi. Et on verra ça aussi la semaine prochaine dans le chapitre suivant où il revient particulièrement sur ce sujet-là. Ici, dans ce que Paul est en train de dire, de ne pas juger les serviteurs, le problème, c'est que les Corinthiens jugent la réussite des ministères des apôtres pour savoir qui serait le meilleur. Ils se prennent un peu comme le grand jury. Vous connaissez peut-être l'émission « La France, un incroyable talent ». On a un jury, ils regardent les prestations et puis ils ont un buzzer. Et puis s'ils n'aiment pas, et puis s'il y en a plusieurs qui n'aiment pas, allez, on sort. Ici, les Corinthiens, ils voient les serviteurs de Dieu, ils voient les apôtres, les pasteurs dans l'église, ils se prennent pour le jury. Paul, il prêche comme ceci. L'apôtre Paul, il manque quand même de charisme, il manque d'éloquence. Apollos, lui, c'est un orateur, quoi. Puis Paul, il est célibataire. Il refuse d'être payé en plus par l'église, rémunéré. Les autres apôtres comme Pierre, eux, ils sont mariés, ils sont à plein temps pour l'Église, ce sont des vrais apôtres. Paul met en garde les Corinthiens qui jugent comme cela, humainement, la réussite des ministères parce que ça crée une division dans l'Église. Les ministères sont là comme des serviteurs de Dieu pour encourager l'Église et l'édifier. Pourquoi se divisent-ils autour d'eux? En fait, les Corinthiens, ils ont une mauvaise perspective. Ça peut nous arriver aussi, non? Quand on commence à regarder à côté de nous, on a une perspective horizontale. On vit dans la comparaison. La seule baromètre ou la seule chose pour pouvoir voir, nous comparer les uns aux autres, c'est les autres. Alors qu'ici, Paul essaie de leur rappeler qu'ils doivent avoir une perspective verticale. Ne jugez pas avant le jour du Seigneur. C'est lui qui va dévoiler les choses qui sont même dans nos cœurs. Il manifestera les desseins des cœurs, c'est dans le prochain slide. Juste avant. Il manifestera le dessein des cœurs, alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Dieu va mettre en lumière, lorsque Jésus-Christ reviendra, les motivations profondes qui sont sur nos cœurs. Pour ceux qui servent Dieu, en particulier comme les apôtres pour la prédication de l'Évangile, mais aussi pour chaque chrétien, pour chaque personne sur terre, c'est lui qui connaît les cœurs. Donc on peut tromper les autres en voulant passer pour le meilleur, en se comparant les uns les autres, en ayant ce regard horizontal, en regardant à côté de soi. On peut se tromper nous-mêmes, Paul dit même, je ne vais pas même me juger moi-même. Pas que je pense, il avait la conscience pure, il ne pensait pas avoir fait quelque chose de mal. Mais il ne voulait pas se juger lui-même, parce qu'il sait que Dieu seul connaît les motivations profondes des cœurs. Paul ne vivait que pour le regard d'une seule personne, Jésus-Christ. Ça tombe bien, c'est quand même lui qui a le buzzer, même si je ne sais pas si l'image est très appropriée. Mais en tout cas, le vrai jury, si tu mets le slide d'après Sylvain, ce n'est pas nous. Le vrai jury, ce n'est pas nous. Le vrai juge, ce n'est pas nous, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui peut nous rendre justes d'ailleurs, par ce qu'il a fait à la croix. Il nous a lavés, comme on l'a entendu tout à l'heure, de toutes nos fautes. Ce n'est pas par notre justice qu'on peut se présenter devant lui, et ce n'est pas par notre justice qu'on peut le servir. Ce n'est pas pour notre propre avancement qu'on va le servir, pour la cause d'Apollos ou la cause de Paul. Non, pas du tout. C'est lui qu'on l'on sert, parce qu'on est simplement des intendants à son service. Ne nous comportons pas vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de nous-mêmes, comme le grand jury. Voilà la grande application de cette première partie. Changeons de perspective. Recherchons à vivre pour le regard d'une personne, le regard de la personne qui compte vraiment, et c'est Dieu. Prêt à changer de perspective? Es-tu prêt à changer de perspective? Le vrai jury, ce n'est pas nous. Deuxièmement, le vrai problème, ici dans ce texte, on voit que c'est notre orgueil. Si vous avez une Bible, regardez les versets 6 à 13. Au verset 6, Paul dit « C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos. » En gros, si je prends mon exemple et celui d'Apollos, c'est pour votre bien, c'est à cause de vous. « Afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul ne vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. » Parce que se prendre pour le jury mène inévitablement à l'orgueil, inévitablement à se croire supérieur et au-dessus des autres. C'est nous qui allons les juger. C'est nous qui savons ce qui est le mieux. Paul va les secouer un peu. Il va leur poser des questions pour les faire réfléchir. On va les regarder. Et je pense que ce sont des questions qui peuvent aussi nous bousculer et nous faire réfléchir. La première question qu'il pose ensuite, c'est « Car qui est-ce qui te distingue ?» Les Corinthiens, vous savez, s'ils étaient fiers d'une chose, c'était d'être spirituel. Et d'être spirituel, ça veut dire d'être proche de Dieu. Et donc, qui te distingue? Qui est-ce qui va montrer qui est le meilleur? Bien sûr, ils vont répondre, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous distingue. Okay? Donc Paul, il continue avec une deuxième question. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Vous savez, les premiers chapitres ont montré que les Corinthiens, ils étaient fiers aussi des dons spirituels qu'ils avaient reçus. Donc, vu que les dons sont spirituels, ils viennent forcément de Dieu. Okay? Donc quand Paul pose la question, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Ils sont obligés de dire, rien. tous les dons, on les a reçus de Dieu. Et il pose une troisième question. Ben alors, si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Si c'est Dieu qui te distingue, si c'est Dieu qui donne les dons spirituels, pourquoi est-ce que vous vous comportez de manière orgueilleuse en faisant comme si ça venait de vous-même? Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, nous on est les meilleurs. Ouh! Ici, Paul est déjà en train de montrer que quand on se trompe de perspective, on croit qu'on est le jury et on oublie que c'est Dieu le juge. Mais on oublie aussi l'évangile même qui nous sauve, que c'est par grâce qu'on est sauvé, pas par nos forces, pas par nous-mêmes. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? C'est Dieu qui nous donne toutes choses. Paul ici, on va le voir vers la fin, il a quand même un comportement qui peut nous sembler un peu dur, mais en fait, c'est parce qu'il est passionné, parce qu'il aime cette église, qu'il ose leur dire la vérité. Il aimait pas face au pied du mur juste pour qu'ils se sentent mal. Il aimait face au pied du mur pour qu'ils réalisent leur folie. Et après avoir posé ces questions, il va pousser un poids plus loin. Et il va même utiliser de l'ironie, un peu de sarcasme, pour les réveiller, pour qu'ils, enfin, ils réalisent la folie de leur orgueil. Regardez avec moi. Le slide suivant. Le paragraphe 6 à 13, juste avant, le paragraphe 6 à 13 commence ceci comme si et finit ainsi. Il commence en disant, déjà vous, les Corinthiens, vous êtes rassasiés, vous êtes riches, sans nous vous avez commencé à régner. Ensuite, on va voir Paul, il décrit la vie des apôtres et puis il termine, nous, donc les apôtres, jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, jusqu'à maintenant. La source de leur orgueil est une mauvaise perspective. Les chrétiens, ils pensent qu'ils sont déjà rassasiés. Ça veut dire déjà arrivés. C'est comme s'ils étaient déjà arrivés à la fin de la course. Vous savez, ils avaient déjà franchi la ligne d'arrivée. Ils étaient en train de siroter le jus de fruits à la fin. D'accord? Ils étaient déjà arrivés. Ils avaient atteint la maturité spirituelle. Le règne de Dieu, ça y est, c'est déjà arrivé. On a reçu l'Esprit de Dieu, donc du coup, c'est bon, le paradis est déjà sur terre. On est déjà parfait. On n'a pas besoin de changer. Paul leur dit ceci dit, juste après, ah mince, non, reviens alors, je vais vous le lire. Voilà, déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, sans nous vous avez commencé à régner. Ils pensent déjà que le règne de Dieu s'est établi, complètement. C'est-à-dire qu'on n'a plus rien à espérer pour notre vie après la mort. Paul, ici, il leur dit, puissiez-vous régner en effet? Oui, lui, il aspire à ce jour où Jésus va revenir. Il aspire à ce que le règne de Dieu soit complet dans sa vie. Mais il va leur montrer leur folie en disant, quelque part, si le règne de Dieu était déjà pleinement manifesté, pourquoi les apôtres vivraient-ils encore tant de souffrances? Si, comme vous le dites, avec fierté, on a tous les dons spirituels, on a tout ce qu'il faut, on est rassasiés, on n'a plus besoin de rien, on n'a plus besoin même de Paul, l'apôtre. Pourquoi, si c'est déjà pleinement manifesté, y a-t-il encore tant de souffrances dans la vie des apôtres? Paul aimerait que ce jour soit déjà là, mais ce n'est pas encore le cas. Déjà arrivé, mais nous ne sommes pas encore arrivés à la fin de la course. Nous n'avons pas encore franchi la ligne. Jusqu'à cette heure, jusqu'à maintenant, dit Paul, nous souffrons encore dans ce monde. Ils ont une mauvaise perspective du retour et du règne de Jésus qui fait enfler d'orgueil complètement leur cœur. Alors, si le règne de Dieu était déjà pleinement manifesté, pourquoi les apôtres vivraient-ils encore tant de souffrances? Et là, Paul il continue son argumentation en leur montrant la véritable vie des apôtres, ce qu'ils sont en train de vivre, et le contraste énorme avec la vie de ces Corinthiens qui se pensent meilleurs que les autres. Regardez, on va suivre. Le slide est encore après. Dieu, il me semble, a fait de nous des apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Tel un gladiateur ou un prisonnier qui est le dernier dans la procession pour aller jusqu'à l'arène et qui va être le clou du spectacle. Vous avez le prisonnier qui on va mettre à mort face aux bêtes. Il dit, voilà, nous, ce qu'on vit encore, aujourd'hui, jusqu'à maintenant, jusqu'à cette heure, on n'est pas encore arrivé. On peut passer au slide d'après. Nous sommes fous à cause de Christ. Vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, vous êtes forts. Vous êtes honorés, nous sommes méprisés. Oui, ils pensaient être sages. Ils pensaient être forts. Ils pensaient être honorés. Ces Corinthiens-là. Mais Paul leur rappelle que il y a une folie dans le message chrétien de l'Évangile. C'est que dans ce temps présent, on va être considéré comme fou. On voudra vivre dans la faiblesse parce que c'est la faiblesse de Jésus-Christ sur la croix qui a permis d'être notre salut. Et on sera méprisé. Ensuite, Paul fait la liste de toutes ces choses-là. Vous êtes prêts parce que c'est dur. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif. C'est intéressant quand même. Il leur dit, déjà vous êtes rassasiés. Jusqu'à cette heure, nous on souffre la faim et la soif. Déjà vous êtes riches. Ben, nous on souffre la nudité, on n'a même pas d'habit. On est errant et ça et là, on n'a même pas de maison. Nous fatiguons à travailler nos propres mains, en plus de tout le souci qui se faisait, pas pour une église, mais pour tellement d'églises. Il se donnait corps et âme, jour et nuit, il priait pour l'église. Il faisait des voyages longs à dos de cheval ou à bateau pour aller encourager les gens. Et en plus, il travaillait de ses propres mains à fabriquer les tentes pour le bien de l'église. C'est ce qu'on lui reproche d'ailleurs. Et en plus, déjà, vous régnez. Jusqu'à cette heure, nous, les apôtres, on est maltraités. Si le règne de Dieu était déjà pleinement manifesté, pourquoi est-ce que les apôtres vivraient-ils encore au travers de toutes ces souffrances? Le slide suivant. Regardez l'attitude des apôtres. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons à votre bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde. Le rebut de tous, jusqu'à maintenant. Ce que Paul est en train de mettre en lumière ici, il montre la folie de leur orgueil. Il montre la différence et le contraste énorme entre ce qu'ils pensent être et ce que les apôtres, qui sont quand même les leaders de l'Église, hein, disons-le, qui portent le message de l'Évangile, ils sont les dispensateurs de ce message. Dieu leur a confié ce message pour l'Église. Ils sont le modèle aussi du troupeau. Eux, ils vivent dans la souffrance parce que le royaume de Dieu ne s'est pas encore pleinement manifesté. Paul dévoile ici leur théologie. Vous savez, la théologie, c'est notre manière de comprendre Dieu. Le problème de ces Corinthiens, leur mauvaise perspective, c'est qu'ils ont une théologie de la gloire humaine, une théologie qui place sa fierté dans l'homme, alors que Paul leur montre ici la théologie de la croix. Et quand on lit ces réponses ici, ce qui ressort pour les lecteurs de l'époque, c'est qu'ils puissent, ils y voient que l'attitude que Paul et les apôtres ont ressemble bien plus à la vie et l'attitude que Jésus-Christ lui-même, le Maître, avait, en contraste avec la vie des Corinthiens. Mais ça, ils avaient oublié cette partie-là. Nous, on est le jury, vous comprenez? Si on se juge soi-même, on oublie, la référence, elle est juste à côté, et on ne regarde plus à Dieu, c'est plus lui la référence, c'est plus lui notre modèle. Et puis, inévitablement, ben, le vrai problème, c'est que ça crée un orgueil en nous. On croit être déjà arrivé. Le scandale de la croix, il est écrit sur toute la vie, toutes les pages de la vie de l'apôtre Paul, sur toutes ses souffrances. Pour Paul, c'est tel maître, tel disciple. Mais il semble que les Corinthiens, eux, soient plutôt gênés de leur apôtre. Ils ont honte de Paul, sans parler de son manque d'éloquence et autres. Ils ont honte. Comment pourrait-il prétendre être un vrai apôtre en ayant une vie telle de souffrance? Oui, peut-être qu'aux yeux des hommes, c'est vrai, on pourrait se dire ça. Mais vous savez, la sagesse de Dieu la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Ici, justement, il leur montre son autorité d'apôtre et aussi qu'il suit l'exemple du maître. Le risque, vous savez, quand on lit ce genre de texte, c'est qu'on essaie de se placer immédiatement à la place de l'apôtre Paul. C'est vrai, des fois, on est l'objet de critiques, etc., d'autres personnes. Mais je crois que souvent, on ressemble bien plus souvent aux Corinthiens. On a tellement de bénédictions déjà en Christ, déjà aujourd'hui. Déjà, si vous placez votre foi en Jésus, on l'a entendu dans le témoignage de Julien, on est déjà sauvé aujourd'hui. On est déjà assuré de rentrer au ciel dans la présence de Dieu pour l'éternité. Déjà ! Mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Corinthiens, disait Paul, si le règne de Dieu est pleinement manifesté, pourquoi les apôtres vivaient-ils tant de souffrances? Toulousains, dit-on aujourd'hui. Écoutez bien, parce que la théologie de la gloire humaine s'introduit dans nos cœurs tellement facilement. Non? Ben, si on connaît Dieu, déjà aujourd'hui j'aurai la santé. Déjà aujourd'hui j'aurai la réussite professionnelle. Déjà aujourd'hui j'aurai la réussite familiale. Déjà aujourd'hui j'aurai sa paix, son bonheur. Alors, oui, c'est vrai, déjà aujourd'hui, on peut goûter à une part de sa paix. Déjà aujourd'hui, on peut vivre sa présence par son esprit qui vit en nous. Déjà aujourd'hui, on est assuré que pour l'éternité, on sera dans sa présence. Déjà aujourd'hui, on peut recevoir l'amour de Dieu qui comble nos cœurs. Déjà aujourd'hui, sa présence nous réconforte dans les détresses et les souffrances. Oui, mais ce n'est que l'ombre des choses à venir. On attend encore la fin de l'histoire. Nous ne sommes pas encore arrivés. Tant de faux enseignants aujourd'hui font l'inverse. Ils montrent, regardez comment je suis rassasié. Regardez comment je suis riche. Regardez comment je suis honoré. Ils disent aux gens, ben, donnez de l'argent et puis vous serez comme moi. Ça rentre dans les caisses du pasteur, donc ça l'aide à être riche d'ailleurs et pouvoir le montrer devant tous. Ici, Paul montre clairement que la théologie, la façon de comprendre Dieu qui vient de Jésus-Christ, c'est une théologie de la croix, c'est une théologie de presque, je vais dire un mot dur, mais de l'humiliation, parce qu'on reconnaît nos fautes, on reconnaît qu'on a besoin que Dieu nous juge avec sa justice, et on reconnaît que pour être jugé justement, on a aussi besoin qu'il nous sauve, qu'il nous pardonne et qu'il nous transforme. Le vrai jury, ce n'est pas nous, le vrai problème, c'est notre orgueil. Et on va terminer avec le vrai chemin, c'est celui de la croix. Paul continue dans le texte, en précisant, ce n'est pas pour vous faire honte que je vous écris ces choses. C'est bien qu'il le dise, puisqu'il a été quand même assez dur. Il continue dans cette image de la maison qu'il a utilisée, on est les intendants, et il passe une image encore plus affectueuse et intime, en montrant, je suis votre père spirituel. Il leur dit, ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car même si vous aviez 10 000 maîtres, 10 000 enseignants, quelque part en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, vous voyez la passion ici de Paul, soyez mes imitateurs. Le prochain slide. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur, c'est le collaborateur qu'il a envoyé pour les enseigner. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous ? Que j'aille chez vous avec une verge ou avec un amour dans un esprit de douceur. Bien sûr, c'est une image ici. Hein. Il ne va pas venir avec un bâton pour taper sur les gens, mais il parle un peu de l'idée, est-ce que je vais devoir vous faire un message un peu dur, où je vous rappelle ces choses, je vous rappelle encore une fois la folie de placer notre orgueil dans les hommes. Ce n'est pas agréable pour Paul de dire ce message, ce n'est pas agréable pour les Corinthiens de l'entendre, mais salutaire pourtant. Paul, ce qu'il voulait, c'était venir avec douceur, venir avec l'affection du Père, venir pour leur bien et leur rappeler les vérités de l'Évangile. Il ne lâche pas l'affaire parce qu'il les aime et parce qu'il espère les voir changer. Parce que Paul sait que l'Évangile peut nous aider à changer de perspective. À changer de perspective sur Dieu. On n'est pas le jury, c'est lui. À changer de perspective, ne pas regarder à côté de nous, mais regarder à Dieu et nous rappeler que même si nous avons déjà beaucoup de bénédictions, nous n'y sommes pas encore arrivés. Et surtout, on ne doit pas se comparer par rapport à ces choses-là. Paul lance donc cette invitation pour terminer, une invitation à choisir le chemin de la croix. C'est un chemin où on reçoit la grâce de Dieu qui nous lave de toutes nos fautes, où on comprend qu'on vient les mains vides devant Dieu et que seul lui peut nous sauver, seul lui peut nous changer, seul lui peut nous faire accéder à ses promesses pour l'éternité. C'est un chemin où l'on marche en suivant Jésus-Christ comme maître. Ce chemin est une folie aux yeux des hommes. Mais c'est la sagesse et la puissance de Dieu, nous dit Paul. C'est un appel à prendre le chemin de la croix où on s'humilie, on recherche le bien de l'autre, celui où on considère l'autre comme étant plus important que nous-mêmes, celui où on suit l'exemple de Jésus-Christ et où on veut l'imiter. Paul, il va jusqu'à leur dire, « Soyez mes imitateurs ». Et en invitant les Corinthiens à l'imiter, Paul les invite bien sûr à imiter Jésus-Christ lui-même. Plus tard au chapitre 11, vous verrez, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ, précisera Paul. Il parle d'imiter Jésus dans ses voies, dans son sentier. Timothée va venir leur rappeler cela. Vous savez pourquoi c'est important que Timothée vienne aussi leur amener ce message et que Paul parle à la fois du message et de son exemple de vie? C'est parce que pour Paul, il ne s'agit pas simplement de comprendre et connaître intellectuellement la bonne théologie de la croix, mais aussi de l'expérimenter, de la vivre en comptant sur la puissance de Dieu. Pas juste sur des paroles humaines, comme certains des faux enseignants à l'époque se vantaient. Ils disaient plein de choses, disait Paul, mais ils disaient le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais en puissance. Et cette puissance-là, on y a accès quand on place notre foi en Jésus-Christ. C'est d'abord considérer qu'on n'est pas le vrai jury et considérer qu'on a besoin de lui pour être juste. Considérer qu'on a tendance à s'enorgueillir, à comparer avec les autres, à vouloir placer d'autres supérieurs, presque écraser les autres histoire de se sentir un peu mieux. Comme si ça allait nous élever. Prendre le chemin de la croix, dans des termes peut-être plus concrets, cela veut dire donner les clés de sa vie à Jésus-Christ. Donner les clés. Vous avez déjà fait ça, de donner les clés de votre voiture pour quelqu'un et la garer, donner les clés de votre maison, donner les clés, je ne sais pas si vous avez un cadenas ou quelque chose qui est précieux pour vous, votre vélo ou autre. Ici, donner les clés de notre vie à Jésus-Christ, c'est reconnaître nos fautes, reconnaître qu'on a besoin de son pardon et une vie nouvelle. C'est lui confier nos vies entières, tous les domaines de nos vies. Alors ma question pour nous ce matin, pour toi ce matin, sera celle-ci. As-tu déjà donné les clés de ta vie à Jésus-Christ? En changeant de perspective, que le vrai jury, ce n'est pas nous, c'est Dieu. Et c'est par la vie parfaite, la mort et la résurrection de Jésus-Christ qu'on peut être juste devant lui. Et que la résurrection des morts nous attend vraiment. Un jour, on ressuscitera pour de vrai. On n'y est pas encore arrivé. Le vrai problème, c'est nous. C'est nous qui avons besoin de changer. Si on pense qu'on y est déjà arrivé, écoutez, on n'a plus rien à se dire. On n'a plus besoin d'entendre la parole de Dieu pour qu'elle change nos cœurs. On pense qu'on est déjà les meilleurs. Et le vrai chemin, celui de la croix, c'est celui où on ouvre les mains. On rend à Dieu les clés de notre vie, en sachant qu'il est bon, en sachant qu'il nous aime, en sachant qu'il a la puissance vraiment de changer nos vies dès maintenant et pour toujours. Car oui, un jour, on règnera avec lui. Pas encore, mais ça va venir. Un jour, on sera rassasié, riche de Dieu, sage, fort, honoré. Nous ne serons plus comme Paul dans les cortèges de prisonniers qui vont vers la reine. Nous serons dans le cortège triomphal de Jésus-Christ, le roi qui vient pour nous libérer de nos chaînes. Et cette invitation est pour tout le monde. Si elle était vraie pour les habitants de Corinthe, elle est aussi vraie pour nous aujourd'hui. Elle est vraie pour toi si tu viens pour la première fois dans une église ou si tu viens ici depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, peu importe. Elle est vraie pour nous individuellement, mais elle est aussi vraie pour nous en tant qu'église, cette invitation. Parce que c'est l'unité aussi du corps qui est en jeu ici. Alors, prêt à changer de perspective? Es-tu prêt à donner les clés de ta vie à Jésus-Christ? Je vous propose de prendre quelques instants pour réfléchir à cela. On va mettre le dernier slide encore, celui d'après. Je vous laisse réfléchir à cette phrase. Est-ce que Dieu m'invite ce matin à changer de perspective sur lui, sur l'attente de son retour, de son règne? Comment cela peut m'amener à changer de perspective dans un domaine de ma vie concrète aujourd'hui? Je vous invite à lire ces questions et vraiment à demander à Dieu de sonder vos cœurs, de sonder nos cœurs. Il connaît tout ce qui est caché en nous. Et de le prier qu'il puisse nous aider par sa grâce à avoir la juste perspective. Parce que cette bonne perspective va changer beaucoup de choses, et en particulier notre relation avec Dieu et notre relation les uns avec les autres. Alors je vous laisse réfléchir en silence, et alors qu'on réfléchit, l'équipe musique va venir, et elle nous conduira ensuite dans un chant. Et ce chant, ça sera aussi l'opportunité pour chacun d'entre nous de revenir sur le chemin de la croix, d'accueillir la grâce de Dieu. de dire au Seigneur, voici les clés de ma vie. La croix seule me suffit. Ta puissance s'accomplira dans ma faiblesse.